Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation.
Les forces armées de la République démocratique du Congo et les casquets bleus de la MONUSCO en alerte pour stopper les violences des groupes armés dans le territoire des Djouganitouri. C'est notamment contre la milice Codeco et la Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. La Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, en collaboration avec Caritas Développement Kalemi Kirungu, plaide pour l'accès à la terre en faveur des peuples autochtones pygmées à Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Objectif, renforcer la cohésion sociale entre ces peuples et les Bantous. L'association sans but lucratif africaine RDC vient de former une dizaine de personnes en coupe et couture dans la ville de Goma, Nord Kivu. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge. Nous en parlons avec Nicolas Bahati, chargé des programmes à l'ASBL africaine RDC basée à Goma. Bonjour à tous. En Ituri, au moins 15 personnes, dont 6 miliciens, ont été tuées depuis samedi lors des opérations militaires des FARDC et des attaques des groupes armés dans les territoires des Djougou. Les forces de la MONUSCO sont également en alerte maximale face aux menaces persistantes des miliciens de la CODECO et des CRP. À Djaïmbou, des violents échanges de tirs ont opposé pendant plusieurs heures les casquets bleus à un groupe d'assaillants de la CODECO. C'est une correspondance d'Isaac Raymond, rendue par Lievin Mbuinga.
Les atrocités des groupes armés, notamment la CODECO et la Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga, continuent de menacer la quiétude des populations Nituri. Hier lundi, une attaque de la milice CODECO a fait 3 morts et 1 blessé à Liko, dans le territoire de Djougou. Des hommes armés identifiés à la CRP ont riposté avant que les FARDC n'interviennent pour rétablir l'autorité de l'État. Selon des sources locales, 6 miliciens ont été neutralisés lors de ces affrontements. Toujours lundi, 2 camions sont tombés dans une embuscade tendue par des présumés miliciens de la CODECO à Kpadolé, sous la route nationale numéro 27. Les assaillants ont dépouillé des membres d'équipage de téléphone, d'argent et d'autres biens. Le week-end dernier, de violents échanges de tirs ont opposé les forces de la MONUSCO aux miliciens de la CODECO après leur incursion dans le village de Ndjaïmbou. Bilan 6 morts et 4 blessés. Ces combats, qui ont duré près de 4 heures, ont permis de limiter les dégâts et de protéger les civils.
Merci Lévin Mbuinga. Pendant ce temps, la Commission nationale des droits de l'homme condamne les violations massives et répétées des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les parties des provinces du Nord et Sud Kivu sous occupation de la coalition rebelle de l'AFC M23. Dans une déclaration faite ce mardi ici à Kinshasa, elle fait état des exécutions extrajudiciaires, des viols à grande échelle, des déplacements forcés des populations et en appel au respect des accords de Washington et des principes de Doha. On écoute le président de la CNDH, Paul Sapou, au micro de Jeff Ngoy.
La CNDH appelle au cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les forces armées étrangères du territoire congolais. La CNDH appelle également au respect scrupuleux des accords de Washington et de Doha, ainsi qu'à l'engagement constructif dans le processus de dialogue et de négociation. La CNDH appelle à la protection des populations civiles, au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et à la facilitation de l'accès humanitaire dans les zones affectées. Et elle appelle également à la mobilisation de la communauté internationale pour exercer toute pression nécessaire afin de garantir la paix, la sécurité et la souveraineté de la RDC.
Cette nouvelle en plus bref, à Lubumbashi, la police d'investigation criminelle a présenté ce lundi au commissaire provincial du Haut-Katanga 7 présumés criminels. Parmi eux, un groupe accusé de s'être introduit au domicile d'un avocat au quartier Tchamilemba, commune de Kampimba, avec des armes blanches. Les malfrats auraient emporté des biens de valeur et une importante somme d'argent. Un autre groupe est constitué des inciviques qui sèment la terreur au quartier Tchansansa, dans la commune de Lubumbashi. Le dernier groupe est celui des présumés voleurs qui opèrent au niveau des Machipicha. La police annonce que cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo. Dans la province du Maniema, l'Union nationale de la presse du Congo demande un assouplissement des mesures de couvre-feu pour les professionnels des médias. Selon le président de l'UNPC section Maniema, Grace Mbambi, cette mesure de couvre-feu de 20h30 à 5h juste préjudicie le travail des médias. Une mesure de grâce, dit-il, leur permettra de bien respecter leur programme. On écoute Grace Mbambi ou Mbambi au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, depuis le 14 août de cette année, le gouvernement provincial a pris une mesure instaurant le couvre-feu, donc chaque jour, de 20h30 à 5h juste. Depuis l'entrée en vigueur de ce couvre-feu, de nombreux journalistes sont contraints de terminer leur travail tôt et plusieurs médias, même de Kindu, ont dit raccourcir leur programme à cause justement de ce couvre-feu. Cela prive la population de la ville de Kindu de son droit fondamental, celui d'accès à l'information, pourtant garanti par notre constitution à son article 24. Et donc, face à cette situation, l'UNPC demande aux autorités de la province du Maniema d'assouplir cette mesure aux professionnels des médias qui commencent leur travail avant 5h et ceux qui terminent leur travail après 20h30. Et l'UNPC Maniema appelle également tous les professionnels des médias de veiller au strict respect de notre code d'éthique et de déontologie des journalistes congolais en cette période un peu particulière dans la ville de Kindu, mais également d'avoir toujours sa carte de presse en soi. Cela va permettre aux agents de l'ordre d'identifier les journalistes sans problème.
Nous sommes dans la province du Tanganyika. Une rencontre de plaidoyer en faveur des peuples autochtones pygmées a été organisée le week-end dernier dans le territoire de Niouzou. Il a été question de faciliter l'accès à la terre à ces peuples et ainsi renforcer la cohésion sociale entre pygmées et bantous. Cette activité a été organisée par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, en collaboration avec Caritas Développement Kalemi Kirungu. C'est grâce au financement de l'Union européenne. Paul Emunanga nous en parle.
Les échanges ont porté sur l'identification des problèmes liés à l'accès à la terre, la sensibilisation à l'importance des titres fonciers, l'accompagnement des communautés dans les processus d'acquisition de ces titres. Jean-Pierre Kapalai est le coordonnateur provincial de la CONAPAC.
L'objectif, c'est d'avoir cette rétrocession des terres appartenant aux pygmées pour développer les activités de régénération de la biodiversité et puis permettre aux deux communautés, bantou et pygmées, d'avoir accès aux ressources et ainsi créer une cohésion locale.
Une trentaine de participants ont pris part à cette rencontre. Il s'agit des chefs coutumiers, des leaders des réseaux des peuples autochtones et d'autres couches de la population. Signalons que ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile pour faciliter l'accès à la terre afin d'avoir un développement durable et égal, récapteur en sigle. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasa-Oriental pour parler du lancement officiel lundi de la campagne agricole saison A. La cérémonie a été présidée par les gouverneurs des provinces intérimaires dans les secteurs d'Insangu, territoire de Katanda. Docteur Augustin Kayembe souhaite que la province exploite 500 à 1000 hectares des produits vivriers pendant cette saison culturelle. Il a promis d'appuyer les producteurs locaux pour accroître la production. Il a en outre énuméré quelques défis qui ont empêché l'atteinte des objectifs lors de la campagne précédente. C'est entre autres le manque de coordination, la lenteur dans la mise en œuvre des actions ainsi que le faible accompagnement. Il a ensuite remis symboliquement quelques intrants agricoles aux chefs traditionnels et à quelques paysans. Du Kasaï oriental, allons au Kasaï central pour parler de la loi portant reddition des comptes 2024. Une délégation du ministère des Finances à Kananga en vue de recueillir des données en prélude de la préparation de cette loi. Ceci entre dans le cadre de la redevabilité sur la gestion des finances publiques. Après la rencontre avec les gouverneurs des provinces, le chef de la délégation a précisé que ce contrôle va se faire dans tous les services étatiques pour l'exercice 2024. Fidel Babacar, dans cet extrait choisi par François Kadima.
Notre mission de la reddition des comptes a pour objectif de présenter la situation des fonds récits du pouvoir central au niveau du Parlement en recettes et en dépenses et arrêter les comptes de manière définitive. L'autorité budgétaire qui est le Parlement vous a donné mandat de mobiliser les ressources et d'exécuter les fonds publics. Vous l'avez fait, vous devriez rendre compte. Et à son tour, le Parlement établit les responsabilités. Et ces responsabilités dépendront des résultats que nous allons prononcer et envoyé au niveau de la hiérarchie.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'École nationale d'administration ENA s'est dotée de sa première revue scientifique intitulée « Inflexion ». Cet ouvrage bilingue, publié aux éditions Académiques Editor, a été officiellement lancé hier à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Ces livres rassemblent des articles visant à une meilleure compréhension des phénomènes administratifs, économiques et sociaux dans le but de contribuer à l'amélioration des pratiques de gouvernance publique en RDC. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
La revue Inflation, fruit d'un travail collaboratif entre professeurs et experts venus du monde entier, marque une étape importante dans l'évolution de l'administration publique en RDC. Le directeur général de l'École nationale d'administration considère la publication de ses premiers numéros comme un moment fondateur de l'histoire récente de l'administration congolaise. Il a fait savoir que cet ouvrage est conçu comme un espace d'intelligence collective, un lieu où se croisent les savoirs issus de la recherche et les interrogations d'une société en quête d'un service public plus efficace et plus proche des citoyens. Tombola Mouké.
Cette revue que nous voulons en carrefour entre la recherche académique, la recherche scientifique et la pratique administrative. En même temps, nous la voulons aux standards internationaux. Ça prolonge le bras de la réforme de l'administration publique.
De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique saluent cette initiative qui, selon lui, permet de concilier l'administration et la science.
Désormais, le temps est donné pour que l'administration publique en général et l'ENA en particulier soient dotées d'un cadre scientifique prestigieux.
Cette œuvre scientifique constitue un indicateur des réformes majeures en cours pour la transformation de l'administration congolaise en un levier de développement.
Revenons un instant au Kasaï oriental pour parler de cette bonne nouvelle pour les fidèles de l'église évangélique libre d'Afrique. Ils retrouvent leur paroisse située au centre-ville de Mbujimayi après près de 3 ans de fermeture. Cette église a en effet été scellée par le gouverneur des provinces honoraires, Patrick Mathias Kabeya, suite au conflit de leadership ayant entraîné des troubles à l'ordre public sur la ville de Mbujimayi. Des détails avec vous, Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que les cultes ont été tenus mercredi et dimanche dernier dans la paroisse centrale de l'église Eelda, située sur l'avenue Inga dans la commune de Lakanchi. Mais les éléments de la police n'ont pas été retirés de ce lieu. Néanmoins, la décision de la réouverture de ce temple a été prise le 11 août dernier par la cour d'appel, affirment les responsables de cette communauté que nous avons contactée. L'église évangélique libre d'Afrique a plus de 100 paroisses sur la ville de Mbujimayi. Elle est connue suite aux pèlerinages annuels qu'elle organise dans la périphérie de la ville et auxquels participent de nombreuses personnes vivant en dehors de la province et de la RDC. C'est un lieu saint où s'opèrent des miracles palpables d'après les fidèles de cette communauté. Rappelons que la paroisse centrale a été scellée en juillet 2022 suite au conflit de leadership qui a opposé les membres de l'équipe dirigeante. L'église a été déchirée par des bagarres entre adeptes dans plusieurs paroisses pour contester la décision de la déchéance du représentant légal soupçonné par l'Assemblée générale d'avoir violé le règlement d'ordre intérieur de cette communauté chrétienne. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La reprise des violences au Soudan du Sud risque de s'étendre dans la région. La situation humanitaire continue de s'aggraver dans le pays, a alerté hier la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, Martha Pobé. Le camp du président Salva Kiir a repris les offensives contre les fidèles de son rival, Riek Machar, alors qu'un accord en 2018 avait permis la fin de la violence, de la violente guerre civile dont les deux hommes étaient au cœur. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rassemblé pour une réunion sur le Soudan du Sud. Les hauts responsables ont partagé leur vive inquiétude concernant la situation militaire, mais aussi humanitaire dans le pays. Selon les Nations Unies, les affrontements qui ont repris au Soudan du Sud depuis mars 2025 pourraient en effet s'étendre aux pays voisins.
L'invité.
À Goma au Nord Kivu, l'association sans but lucratif africaine RDC a clôturé vendredi 15 août une session de formation en coupe et couture. Cette formation, qui a duré 2 mois, a connu la participation des 17 apprenants, des femmes, des jeunes filles et un garçon. L'objectif annoncé est d'amener les bénéficiaires qui ont, par-dessus tout, reçu gracieusement des machines à coudre à créer de l'emploi nécessaire pour leur entreprise en charge. Pour en parler, nous recevons Nicolas Bahati, chargé de programme à l'ASBL Africaine RDC, basé à Goma. Il s'entretient ici avec Chris Moukand.
Nicolas Bahati, bonjour. À l'occasion de cette sortie, de cette promotion des apprenants en coupe et couture, quels sont d'abord vos sentiments?
Je suis très ravi, tellement content. Il y a des femmes dans lesquelles on ne croyait même pas, qui ont fait des expositions incroyables. Dans 2 mois, pratiquement, quelqu'un qui a fait une formation en coupe couture, déjà être capable de produire des habits, des robes, je sais pas, des jupes, des blouses. Mais les femmes ont été incroyables, surtout que ce sont des femmes qui n'avaient jamais fait la coupe couture, mais qui, après seulement 2 mois accélérés des formations, ont fait des choses incroyables et qui ont été même appréciées par les invités, qui ont voulu même acheter leur production. Nous nous sommes dit, voilà, nous avons fait quelque chose.
Comme pour dire que le contexte dans lequel elles évoluent n'a pas tellement d'impact sur leur productivité.
Oui, nous sommes dans un environnement un peu tendu, de manière générale, mais nous sommes dit que les femmes ont des potentiels, des capacités, malgré les défis auxquels elles font face. Et c'est de ces capacités que nous devons exploiter, de les relever, les remonter qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils ont le pouvoir de changer le monde, qu'elles ont le pouvoir d'apporter un plus. C'est la maison qui est en pleine construction, qui est la RDC. Au début, on pensait commencer avec 10 femmes, mais on avait un engouement incroyable de femmes et filles venues des familles très loin du centre, mais elles pouvaient venir très tôt matin, être là au centre et passer les 4 heures, 5 heures en train de suivre la formation. On ne croyait pas qu'ils pouvaient finir pendant les 2 mois, mais toutes ont été présentes et ponctuelles dans les activités. Et c'est ce qui nous motive davantage à poursuivre avec la deuxième promotion.
Sûrement qu'il y a eu des leçons que vous avez tirées de cette promotion.
Oui, il y a des leçons que nous avons tirées. Premièrement, on ne pensait pas avant que 2 mois, on peut produire une personne qui sera utile dans la communauté. Mais aujourd'hui, on comprend que ces femmes-là, comme je le disais, que nous croyons qu'elles ne peuvent rien faire, même dans leur famille, des filles, parce qu'elle n'a pas étudié, fait l'école normale, parce que peut-être elle a été abandonnée, elle a subi des situations de violence et autres, fille et mère ou je ne sais pas quoi, abandonnée par son mari et autres, qu'elle ne peut plus se relever, mais pour nous, on a compris que ce sont des personnes qu'on ne peut pas quitter ou abandonner, mais on peut les approcher pour les relever, les amener à faire quelque chose. Et c'est pour nous, c'est une leçon qu'elles ont des capacités de faire quelque chose. Et ce n'est pas parce que seulement on a étudié qu'on peut travailler, qu'on peut aider les pays, qu'on peut aider nos communautés, nos familles, mais à travers les métiers, l'apprentissage à métier.
Donc, le monde peut se dire qu'à Goma, il n'y a pas que la guerre.
À Goma, il n'y a pas que la guerre, comme on l'a toujours crié. Il n'y a pas que des femmes qu'on nous a toujours dit qui sont tolées et tout, mais il y a encore des atouts. Il y a des opportunités qu'on demande seulement d'exploiter. Mais nous avons des femmes braves, des femmes qui brisent les défis, qui brisent les murs pour arriver à l'objectif. Et ce sont des femmes actuellement, d'ailleurs de la manière globale, qui gèrent les familles. Beaucoup d'hommes ont fui, beaucoup d'hommes n'ont plus d'emploi, mais ce sont des femmes qui sont en train de prouver de quoi elles sont capables. Et c'est pourquoi Afrikine a décidé de travailler toujours avec les femmes, mais aussi les enfants. Parce que quand on voit la femme, on voit l'enfant. Quand on voit la femme, on voit les jeunes qui veulent aussi changer le monde, transformer sa communauté. Parce que nous croyons que tous ces groupes que nous appelons souvent des groupes vulnérables, ils ont aussi des pouvoirs de faire quelque chose. Contrairement à ce que certains pensent qu'ils ne vont rien, ils ne peuvent plus faire quelque chose.
Nicolas Bahati, merci.
Notre invité était avec Chris Mukand. Par ici s'achève ce journal coordonné par Lievin Mbwinga et supervisé par Alain Rongmochinge. Dédoné Nyangasawa Nyangasa a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Merci pour votre attention.